la tête dans les étoiles. Alain Le Guillot. L'astronomie pour tous, c'est sur Radioactive.
La tête dans les étoiles avec le club d'astronomie des foyers ruraux de Saint-Ouen-les-Vignes, Alain Le Guillot, Philippe Billot et aujourd'hui David Marion de Radioactive. Bonjour Philippe, bonjour David.
Bonjour tous les deux.
Bonjour tous les deux.
Alors aujourd'hui un peu de science-fiction avec un ouvrage mondialement connu, On a marché sur la Lune de Hergé, autrement dit les aventures de Tintin. Alors on va parler plus particulièrement de la fusée inventée par Trifon, par le professeur Tournesol. C'est un engin très curieux, à la fois d'avant-garde et par certains côtés complètement désuet. Bon, il faut savoir quand même que l'album a été édité en 1954, c'est-à-dire qu'on est 3 ans avant le lancer de Spoutnik en 1957. Alors Philippe, tu as regardé un peu à quoi elle ressemble cette fusée ?
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça ressemble, pour l'époque, hein, donc on est dans les années 50, eh bien, la fusée ressemble à un missile V2 que l'armée allemande a utilisé contre les Anglais. Et donc, cette fusée ressemble fortement à ce missile. Alors, bien sûr, elle a une couleur très pétard, elle est d'une belle couleur rouge, avec une partie damier rouge et blanc. Alors, on peut même se poser la question de l'utilité de ce damier. En fait, c'était pour pouvoir se repérer, puisqu'on avait des axes donc verticaux, horizontaux sur la fusée. Donc, ça permettait de repérer le mouvement de la fusée par rapport à sa trajectoire. Alors, bien entendu, elle est beaucoup, beaucoup plus grande qu'un missile de type V2. Et d'ailleurs, on peut se poser les questions de mais quelles étaient ces dimensions là ?
Alors, en regardant l'album et en comparant par rapport au paysage alentour, par rapport au personnage, bon, disons, en gros, ça a la taille d'une fusée Ariane, environ 50 à 60 mètres de haut. Par contre, au niveau performance, ça se rapproche plus d'une mission Apollo, logique, puisqu'on cherche à aller sur la Lune. Bon, voyons un peu ce que ça donne. Ariane, c'est environ 700 tonnes au décollage pour pouvoir mettre 9 tonnes en orbite terrestre. 700 tonnes pour 9 tonnes. Pour une mission lunaire, il faut beaucoup plus, bien entendu, puisque ce n'est pas une simple mise en orbite. Il faut sortir de l'attraction terrestre, aller sur la Lune et revenir. Alors, par comparaison, la mission Apollo, qui est allée sur la Lune, c'est un lanceur Saturne V, le plus gros lanceur qu'on ait jamais construit. Là, on a 3000 tonnes au décollage. 3000 tonnes. Tout ça pour envoyer 47 tonnes sur la Lune et à la fin récupérer 7 tonnes sur Terre, c'est-à-dire la petite capsule avec les trois bonshommes. Vous voyez, 3000 tonnes au décollage et il reste 7 tonnes au retour. C'est pas tout à fait le même schéma. Tout ça pour 3 personnes à bord, une mission de 8 jours pour seulement 21 heures sur la Lune.
Donc si je comprends bien, la fusée de Tournesol, on peut dire, pourrait atteindre au moins 1000 tonnes, probablement plus, puisqu'il faut quand même emporter les 4 personnes qui étaient prévues au départ pour 14 jours sur la Lune. Plus, bien sûr, on n'avait pas prévu ceux qui se sont introduits à l'intérieur de l'engin, plus le chien Milou. Donc voilà, ça fait sûrement, disons, on va dire, allez, 1500 à 2000 tonnes, en regardant en particulier le matériel qui est embarqué. C'est vraiment du solide, du costaud. On a un char comme véhicule lunaire, des plots en béton pour les appareils de mesure, et toute la cargaison est emballée dans des caisses en bois, remis avec de grosses cordes. Donc vraiment, c'est vraiment du lourd, tout ce qui est à l'intérieur de l'engin. Alors on peut se poser la question, mais comment propulser un tel engin avec un tel poids, Alain ?
Alors effectivement, par rapport à Apollo, on voit bien que c'est une fusée qui est beaucoup plus petite, mais qui est probablement presque aussi lourde. Alors, comment est-ce qu'on va la propulser ? Eh bien, Tournesol utilise une double motorisation. D'abord, un moteur fusée classique, c'est-à-dire un moteur à combustion. On prend un truc, on met le feu, et puis ça pousse au cul comme un gros pétard. Bon, ensuite, à l'aide de ce moteur à combustion qu'on utilise pour sortir de l'atmosphère terrestre, ça demande une grosse poussée, on utilise un moteur à réacteur nucléaire. Réacteur nucléaire, exactement, comme celui de nos braves centrales nucléaires qui agrémentent le paysage des campagnes. Bon, le réacteur nucléaire est lourd, mais il a l'avantage de pouvoir fonctionner pendant des heures, et donc de donner une grosse accélération. La poussée dure longtemps, donc l'accélération est forte. Par comparaison, le fameux lanceur de Saturne V, d'Apollo, lui consomme les trois premières minutes de son lancement, les deux tiers de son carburant. C'est-à-dire qu'il part à 3000 tonnes. Et au bout de 3 minutes, il a déjà bouffé presque 2000 tonnes de carburant. Bon, ça fait quand même une grosse impulsion. Et après, c'est fini. Il n'y a plus qu'à larguer le premier étage et le reste continue sur son élan. Alors, le problème du moteur nucléaire, qui est évoqué d'ailleurs par Tournesol, c'est qu'il induirait une pollution. Bon, là, je pense que Hergé est allé un peu trop loin. C'est-à-dire que même à l'époque où on étudiait déjà des moteurs nucléaires qu'on n'a jamais réalisés, le moteur nucléaire n'éjecte pas vraiment le combustible nucléaire. Il ne fait que chauffer un fluide et c'est ce fluide qui est éjecté, en général de l'hydrogène.
Alors, il y a une particularité supplémentaire que je pourrais rajouter, c'est que lorsqu'on regarde la fusée, on voit bien qu'elle est d'un seul bloc. On a vraiment tout un fuselage avec ses trois pieds, mais on n'a pas ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on connaît lorsqu'on regarde la télévision, les départs, les décollages vers l'espace. On voit qu'il y a des boosters, il y a des gros tuyaux, des grosses tuyères qui sont ajoutées à la fusée au moment du décollage et qui sont larguées. On les abandonne après le décollage. Tandis que là, la fusée de Tournesol, elle part tout dans son ensemble, la totalité de ce que l'on voit au décollage part, il n'y a rien qui n'est largué, et elle se pose sur la Lune, elle revient et elle ramène tout. Elle repart, elle revient exactement comme au départ. Alors ce qui est très très étonnant, ce qui dépasse un peu l'imagination, c'est qu'elle est pilotable. On le voit dans la bombe, on peut stopper. On peut stopper la fusée en cours du vol entre la Terre et la Lune, on peut redémarrer le moteur quand on veut, on peut tourner, changer de trajectoire. C'est vraiment un véhicule qui semble extrêmement, extrêmement facile à piloter. Alors, on le voit bien d'ailleurs quand Haddock, qui est un peu éméché, est sorti de l'engin pour aller se promener dans l'espace. Hein. On peut supposer là que c'est quasiment la première sortie extravéhiculaire de l'histoire, au moins de l'histoire imaginaire. Et lorsqu'on regarde les fusées, elles ont des lanceurs. Ces lanceurs sont effectivement, lorsque le carburant est épuisé, sont éjectés, sont largués, et le véhicule continue sur sa lancée. Il n'y a pas de moteur après qui prend le relais. La fusée de Tournesol, donc grâce à ce moteur nucléaire, elle continue toujours d'accélérer pendant la moitié du voyage, puisque à un moment donné, il va falloir ralentir, sinon c'est le crash assuré sur la Lune. Donc il va falloir effectivement avoir toute une phase de ralentissement avant d'arriver à la Lune.
Eh oui, en effet, quel que soit le véhicule, que ce soit une fusée, un bateau ou une voiture, l'énergie utilisée pour freiner est la même que celle utilisée pour accélérer. Il faut autant d'énergie pour freiner que pour accélérer. Et c'est d'ailleurs grâce à cette accélération continue qu'on peut obtenir avec le moteur nucléaire qu'il n'y a pas d'apesanteur à bord. Hein, on voit dans les véhicules spatiaux, là, un des gros problèmes, c'est l'apesanteur. Et bien Tournesol, lui, il fait accélérer son véhicule constamment, ce qui fait qu'on a les pieds bien collés au sol et on a l'impression d'être un petit peu comme sur Terre. Bon, alors si on veut faire un petit calcul, on s'aperçoit que la fusée de Tournesol atteint gaillardement les 45 km seconde, c'est énorme. Actuellement, les lanceurs sont capables de 12 km seconde seulement, ce qui est suffisant pour quitter la Terre d'ailleurs. Eh bien, avec cette accélération, le ressenti à bord est de 0,7 fois, c'est-à-dire à peu près les deux tiers de la pesanteur terrestre. C'est vachement confortable, ça permet aux gens de marcher par terre, de s'asseoir sur les chaises, de faire la cuisine et de boire un whisky. Bon, alors évidemment, quand il n'y a plus d'apesanteur, le whisky se balade. Alors, il y a aussi une petite chose particulière. Au départ et à l'arrivée, il y a une accélération qui est très forte et qui fait subir à l'équipage une accélération à peine supportable. On peut se demander si une accélération aussi brutale est bien nécessaire. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Et alors, quand par hasard, au milieu du voyage ou suite à un incident, on a une période d'apesanteur, là, M. Tournesol a tout prévu, il utilise des souliers magnétiques pour garder les pieds au sol. C'est bien, mais ça implique que les planchers soient en acier. Du costaud, je vous ai dit cette fois-ci.
Mais au jour d'aujourd'hui, les planchers, ils sont faits en quoi ?
Alors là, David, j'ai pas la réponse, mais si j'en juge par ce qu'on fait dans l'aviation, ils sont faits en matériaux composites, c'est-à-dire en matériaux cellulaires, en plastique très léger.
Et cette forme de fusée du professeur Tournesol, est-ce qu'aujourd'hui elle serait viable si on la construisait ? Est-ce qu'elle pourrait vraiment aller sur la Lune ?
Alors, là encore, moi je ne suis pas scientifique, je n'ai pas la réponse, mais j'imagine que utiliser une technique comme ça en tout ou rien, c'est-à-dire que utiliser la fusée comme un camion, ça revient pendant au moins la moitié du voyage, si ce n'est pas les deux tiers, à transporter beaucoup de ferraille pour rien. Et c'est pour ça qu'avec les lanceurs modernes, on utilise un premier étage, on largue le premier étage, on utilise un deuxième étage pareil, on a un module de service qui tourne autour de la Lune, un module lunaire qui s'en détache, on fait notre petit business sur la Lune, on ramène le petit module lunaire sur le module de service, le total va sur la Terre. Juste avant d'arriver sur la Terre, on largue le module de service et à la fin, il ne reste plus que la capsule. Voilà comment on fait maintenant. Si on devait faire la fusée de Tournesol, je pense qu'il faudrait un poids et une quantité d'énergie absolument énorme. C'est pas impossible.
C'est la forme qui est intéressante, puisqu'on retrouve quand même dans la forme, ça rappelle, ça se ressemble un petit peu aux fusées d'aujourd'hui. Et même lorsqu'on regarde maintenant à la télévision l'atterrissage, par exemple, des fusées SpaceX, eh bien, elles ont quand même une ressemblance et elles se posent aussi en verticale, comme l'imaginait Hergé. Donc, évidemment, il y a la forme, il y a quelques points qui sont expliqués dans le livre, dans la BD, qui pourraient coller, mais c'est vrai que je suis d'accord avec Alain, il y a un problème de poids énorme, et le problème de l'énergie et le moteur nucléaire aussi reste encore quelque chose qui n'existe pas vraiment au niveau des fusées. Bon, aujourd'hui, peut-être que ça arrivera, mais on ne maîtrise pas encore tout ça.
Voilà. D'ailleurs, quand on regarde une fusée telle qu'elle est actuellement, on voit un espèce de gros cigare avec juste un petit... juste le nez, juste la pointe qui est habitée ou qui contient la charge utile. Et les 9 dixièmes de la fusée, c'est du carburant et des choses qui vont partir en l'air.
Ce qui est très étonnant, alors là, une très très grosse différence, c'est vraiment l'intérieur. Lorsqu'on regarde les dessins d'Hergé, on voit des pièces avec des volumes spacieux, des tables, des chaises, des placards, un petit peu comme dans notre cuisine. On a une salle commune, on a tout un ensemble de mobilier. Ça ressemble plus à ce qui existe dans des bateaux que dans les capsules Apollo ou autres fusées. Donc là, il y a un décalage entre effectivement la réalité aujourd'hui et ce qui est dessiné. Alors, on respire, il y a des choses intéressantes qui peuvent aussi se rapprocher du réel. On respire de l'air filtré, recyclé. Donc ça, c'est déjà au point dans les capsules et fusées d'aujourd'hui, les stations spatiales compris. Alors, on a de la pointe d'oxygène. Alors, c'est ce qui est étonnant, c'est que, bien sûr, l'oxygène est ajouté, donc on pense, dans la fusée de Tryphon Tournesol, mais on a le vilain Boris qui fume. Donc là, c'est étonnant parce que s'il y a vraiment beaucoup d'oxygène, ça pourrait la cigarette ne va durer que quelques secondes. C'est vraiment, ou alors ça va tout va exploser.
Bah, ça va lui griller les moustaches.
Ah, ça c'est sûr, c'est sûr. Oui, oui, oui.
Mais c'est pas de l'oxygène pur. En fait.
C'est vrai, c'est un mélange.
C'est
probablement,
ce qu'il veut dire. Voilà.
On peut supposer que c'est un mélange. Et d'ailleurs, c'est l'oxygène qui va précipiter leur retour, puisqu'ils sont en manque d'oxygène. Au lieu d'être 4, ils sont, je crois, peut-être 7.
7
en tout.
Oui, c'est ça, oui.
Et donc, il va falloir rentrer un petit peu plus vite de la Lune, puis rentrer sur Terre.
On a fait des véhicules avec de l'oxygène pur. Hein. C'était plutôt la préférence des Américains. Alors, l'oxygène pur a un avantage, c'est que les réserves à emmener sont beaucoup plus faibles. Il a deux gros inconvénients. Un, c'est très irritant au niveau des bronches. Et deux, en cas d'incendie ou en cas d'explosion, alors là, c'est magnifique, c'est un feu d'artifice. Voilà.
Mais par contre, ils disent qu'ils doivent partir plus vite. Mais partir plus vite, on ne peut pas partir quand on veut à notre point de destination.
Oui, je crois que je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'en toute rigueur, ils ont décidé d'avancer considérablement leur départ.
C'est ça.
Or, en matière de trajectoire spatiale, on ne peut pas partir comme ça n'importe comment. Il y a ce qu'on appelle une fenêtre de tir, c'est-à-dire que pour pouvoir atteindre la Lune à la place à partir de la Terre ou l'inverse, il faut que la planète soit dans une position très particulière. Donc là, c'est pas très réaliste. Cependant, la fusée de Tournesol étant pilotable, après tout, pourquoi pas ? On peut peut-être imaginer qu'on part quand on veut et qu'après, on calcule une trajectoire en fonction de l'heure de départ. C'est-à-dire qu'on fait l'inverse, quoi. Au lieu de calculer une heure de départ à partir de la trajectoire, on part quand on veut et on calcule la trajectoire après. Oui, c'est concevable. Bon, maintenant, voyons ce qu'ils ont fait un petit peu sur la Lune. Ah ! Le premier tableau qu'on voit de la Lune, c'est un paysage avec des ombres très allongées. Comme sur Apollo. Regardez les photos d'Apollo, les ombres sont très longues. Ça veut dire qu'on est soit à l'aube, soit au crépuscule du jour lunaire. Je dirais heureusement, parce que sur la Lune, en plein soleil, il fait à peu près 100 degrés. Et la nuit, moins 150. Donc on va supposer que leur mission s'est faite de jour, c'est plus pratique, on voit clair. Seulement, lorsque Tournesol dit qu'il va rester là-bas 14 jours, ça c'est assez improbable, parce que sinon, ils vont, en admettant qu'ils soient arrivés à l'aube, au bout de 7 jours, ils vont se retrouver en plein soleil. Et là, il va faire très très chaud. Alors, une autre petite chose, ils trouvent de la glace sur la Lune, oui. Il y a peut-être un petit peu de glace dans certains endroits qui ne sont jamais au soleil, mais sûrement pas de grottes ni de stalactites. Alors on peut aussi trouver quelques petits détails croustillants. Par exemple, Tournesol a emporté son parapluie. Le véhicule lunaire est un char. C'est assez surprenant, un char c'est gros, c'est lourd. Peut-être est-ce que ça vient du fait que la guerre de 1940 est encore très proche et que la guerre froide vient de commencer. Hein. On est en 1954. Autre chose, les astéroïdes. On rencontre des astéroïdes. Bon, c'est un peu étonnant, quoi. On pouvait quand même les prévoir. Que font les astronomes s'ils ne prévoient pas où sont les astéroïdes ? Et puis, entre la Terre et la Lune, si l'astéroïde passe entre la Terre et la Lune, c'est qu'il est vraiment très près de la Terre, non ? C'est un peu inquiétant, vous ne trouvez pas ?
Oui, c'est vrai. Bon, allez, il est temps de rentrer. On va reprendre notre fusée et repartir de la Lune pour revenir sur Terre. Alors, ce qui est étonnant là aussi, c'est que lorsqu'ils partent, il y a aussi une forte poussée. Alors que, d'une part, l'attraction lunaire est quand même beaucoup plus faible que sur Terre. Et on ne comprend pas pourquoi il y a vraiment cette énorme accélération qui va quasiment les faire tomber dans les pommes. Et donc, voilà, bon, c'est un détail peut-être aussi qui vient de l'imagination d'Hergé, mais qui n'est pas forcément très réaliste.
Alors on peut penser, excuse-moi de t'interrompre, mais on peut penser là, c'est que Peut-être le moteur de propulsion chimique, lui, n'a qu'une seule position, tout ou rien.
Oui, donc ils sont obligés de...
Ils sont obligés de pousser vite.
De pousser très vite pour
voilà,
partir.
Peut-être
ouais,
c'est que
possible.
C'est ça.
C'est possible, oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est à l'arrivée, donc, lorsqu'ils ont traversé donc, tout l'espace entre la Lune et la Terre, eh bien, ils vont rentrer dans l'atmosphère terrestre, et là, pas d'échauffement, c'est super confortable, alors qu'on sait très bien que les fusées d'aujourd'hui et les capsules d'hier, lorsqu'elles rentraient dans l'atmosphère, elles chauffent énormément. C'est parfois même extrêmement dangereux, cette phase de rentrée. Et donc là, pas du tout, pas d'échauffement, et ils se posent tranquillement au point de départ, sur la base. Qu'en peut-on conclure de ce voyage, Alain ?
Moi, je dirais que c'est une mission quand même assez différente de ce qu'on connaît avec Apollo. Comme je disais tout à l'heure, Apollo, c'est une formule modulaire, c'est-à-dire qu'on largue des bouts de vaisseaux au fur et à mesure que se déroule la mission, et à la fin, il ne reste plus qu'une toute petite capsule. Bon, par contre... là, la propulsion et le côté pilotable de la fusée est parfaitement original. On ne fait pas encore ça. On ne sait pas faire encore. Ah, une autre grande qualité de la fusée, elle est réutilisable. Ça, c'est vraiment d'actualité. On commence seulement maintenant à envisager des fusées réutilisables. Si, il y a eu quand même la série des navettes spatiales. Bon, et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une société qui s'appelle, je crois, SpaceX, qui tente de mettre au point et donc de vendre des fusées réutilisables. Donc, beaucoup de qualité pour cette mission. Alors, qu'est-ce qu'on dit ?
Bravo, Tournesol !
La tête dans les étoiles. Alain Le Guillot. L'astronomie pour tous, c'est sur Radioactive.